Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
Dans les années 1860, on vient ici du monde entier. Madame traverse la Seine et se rend au Bon Marché qui vient d'ouvrir.
Dans les grands magasins, on vend des petites poupées.
C'est le premier grand magasin et c'est vraiment un événement.
La curiosité est un vilain défaut.
Dans les grands magasins, ours et poupées végètent.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On est dans l'ambiance avec la mise en onde d'André Facetta. Il y a 200 ans naissaient les premiers grands magasins. Qui est l'inventeur de ce concept, de cet espace, de cette atmosphère? Comment fonctionnait le tout premier du genre, le Bon Marché à Paris? On voyage dans le temps avec notre invitée, l'historienne Renée Grimaud. Bonsoir et bienvenue à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, avant les grands magasins qui se développent au 19e siècle, ça ressemblait à quoi les boutiques? Comment on faisait pour faire ses courses?
On poussait la porte d'une boutique, on rentrait dans des petits magasins, des magasins qu'on appelait de nouveautés, et puis on marchandait parce qu'il n'y avait pas de prix fixe à l'époque.
Il n'y avait pas d'étiquette, c'est-à-dire que je devais demander le prix d'une étoffe, d'une casserole?
Voilà, et selon la tête du client, on vous donnait tel ou tel prix.
Alors tout ça, ça a changé en 1791 avec la loi Le Chapelier. Qu'est-ce qu'elle permet, cette loi?
Et la loi Le Chapelier permet à des... En fait, avant, chaque boutique ne pouvait vendre que ce qu'elle fabriquait, sauf les merciers. Et à partir de la loi Le Chapelier, on peut vendre des choses que d'autres fabriquent.
Ah oui, donc on peut être un magasin généraliste cette fois.
Voilà. Ce qui n'existait pas avant, il y avait juste les merciers qui pouvaient vendre des choses très variées, mais les autres ne vendaient que ce qu'ils fabriquaient.
Alors là, on parle des grands magasins. On a cité tout à l'heure le nom de ces grands magasins qui existent toujours d'ailleurs à Paris. Est-ce que on a été en avance? Est-ce que Paris a créé ou inventé les grands magasins? Est-ce qu'on peut dire ça?
D'une certaine façon, oui. Parce que les magasins de nouveautés ont commencé même avant, sous Marie-Antoinette, avec le Rose Bertin, qui avait déjà son premier magasin qui s'appelait Au Grand Mongol. Au Grand Mogol. Et puis après, il y a eu au Tapis Rouge en 1784, qui était du côté de la rive droite.
On les appelait, vous avez dit, des magasins de nouveautés?
Et oui, parce c'est qu'il drôle, fallait tout le temps créer de nouveaux produits pour attirer la clientèle et surtout la clientèle féminine.
On va rencontrer maintenant un personnage extraordinaire, c'est l'inventeur, en quelque sorte, du grand magasin, c'est Aristide Boussicot. D'où vient-il?
Il vient de l'Orne. Il était commis et puis... Il a travaillé dans un petit magasin qui s'appelait le Petit Saint-Thomas, qui était entre, du côté de la rue du Bac et de la rue de l'Université. Ce magasin, un jour, a fermé et puis s'est développé. Existait déjà le Bon Marché du côté de la rue du Bac.
Et on est dans le 7e arrondissement,
on est
à Paris.
Dans le 7e arrondissement. Et il est devenu vendeur dans ce magasin.
Mais c'était une boutique, ça?
C'était une boutique.
D'accord,
c'était
ouais.
Pas un grand magasin.
Ouais.
C'était tenu par deux frères qui s'appelaient les frères Vidot. Et il s'est associé à ses frères. Et du coup, l'entreprise a pris un développement considérable.
Il a fait la fortune de ces frères-là?
Il a fait la fortune, plutôt la sienne.
Ah oui?
Un peu plus que la leur. En révolutionnant le commerce, c'est ça?
En révolutionnant le commerce. Et en fait, c'est toujours le même schéma. Il avait rencontré une jeune femme, Marguerite Guérin, qui était crémière dans une petite boutique. Et ils se sont mariés. Et petit à petit, ils ont racheté aux frères Vidot le Bon Marché. Et petit à petit, ils l'ont agrandi.
Renée Grimaud, vous publiez La fabuleuse histoire des grands magasins, un très beau livre aux éditions Prisma. On y voit des gravures du Bon Marché qui se trouve rue de Sèvres, dans le 7e arrondissement de Paris. Et sur la porte de ce premier grand magasin, qu'est-ce qu'on peut lire sur l'écriteau?
Entrée libre.
Mais c'est normal.
Incroyable.
Non, mais c'est vrai. Ça nous semble, on dit, c'est pas une info, ça, franchement. C'était une info, ça.
C'était une info, parce que enfin, les clientes peuvent toucher du doigt les étoffes. Elles peuvent essayer ce qu'on ne pouvait jamais faire avant. Avant, vous rentriez dans une boutique, vous aviez le maître des lieux qui faisait barrage. Il fallait demander ce qui était derrière lui, en fait. Et là...
On ne pouvait pas essayer. Ça veut dire qu'on repartait avec des vêtements parfois qui ne nous allaient pas.
Exactement.
Et on pouvait les ramener ?
On ne pouvait pas les ramener, bien entendu.
Ah non.
Oui. Alors que
ramener,
là, on peut...
Il fallait marchander. Il fallait déjà vouloir rentrer dans la boutique, marchander et ne pas essayer.
Et ça, c'est une première idée géniale parce qu'on rentre dans une boutique on peut toucher les produits, ça ne veut pas dire qu'on va forcément les acheter. C'est aussi, ça devient un lieu de balade, en fait.
Bien entendu.
Le grand magasin. Oui. Et il en a fait, eu cette idée géniale.
Oui, oui, tout à fait. Et en plus, il faut aiguiser les sens des femmes. Donc, par exemple, je ne sais plus dans quel magasin c'est, il y avait une fontaine de parfums pour sentir les différentes odeurs que la femme, après, pouvait acheter sous forme de parfum.
René Grimaud, on est en période de soldes. Les soldes, on les doit à qui ?
Aristide Boussicot.
Pourquoi il a l'idée de créer ces soldes ?
Parce qu'il fallait absolument écouler la marchandise le plus rapidement possible pour fabriquer encore, vendre, toujours plus.
Ça veut dire que c'est aussi lui qui crée les collections ? Il y a une collection de printemps, une collection d'hiver ?
Absolument.
Ouais.
Oui. Il crée les collections, il fait fabriquer énormément de choses et il faut tout le temps renouveler le stock. C'est ça l'idée, une des idées phares, il faut renouveler le stock.
Aristide Boussicot, c'est un nom qu'il faut retenir hein, si vous nous écoutez ce soir. On en avait déjà parlé sur RTL, le nombre de gestes qu'on fait quotidiennement et qu'il a d'une certaine façon inventé. Tiens par exemple, il y a encore quelques jours, il y avait ces vitrines des grands magasins, magnifiquement décorés pour les fêtes de Noël. C'est grâce à qui ça ?
C'est grâce à lui.
Merci Aristide.
Il a inventé ça quand ?
Il a inventé ça dès le début, au milieu du 19e siècle, quand il a commencé à lancer le bon marché. Il a inventé en même temps, c'est pas lui qui a inventé la vente par correspondance. C'était déjà inventé au premier magasin, là, au Tapis Rouge, en 1784. Mais il a inventé tout le reste. Il a inventé les envois d'échantillons. Il y avait des salles entières au bon marché où les ouvrières était préposé à la vente d'échantillons dans toute la France et à l'étranger.
Alors imaginez, on est à peine en 1877, la petite mercerie est devenue le premier grand magasin généraliste de Paris. Le Bon Marché s'étend alors sur 50 000 mètres carrés et emploie 1800 personnes. Mais Aristide Boussicot n'a pas seulement été un bon commerçant, il a été aussi un très bon patron. On vous raconte pourquoi sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
J'étais un inconnu dans les grands magasins. Je me suis reconnu dans les grands magasins.
Philippe Catherine qui nous chante les grands magasins, l'histoire des grands magasins, c'est ce que l'on vous raconte avec René Grimaud. On l'a vu, tout commence avec le Bon Marché, c'est rue de Sèvres, hein, dans le 7e arrondissement à Paris, imaginé, inventé par cet Aristide Boussicot. Donc si vous nous rejoignez, je rappelle qu'il a à peu près tout inventé, les étiquettes avec les prix, les soldes, les vitrines décorées. En fait, il veut faire de son grand magasin un lieu de visite, un lieu convivial. Qu'est-ce qu'on y trouve d'autre hein ?
On y trouve pour occuper les messieurs pendant que les dames font leurs courses. On y trouve un fumoir, on y trouve une salle de lecture, on trouve un salon de jeu pour les enfants.
Salon de thé.
Un salon de thé, bien entendu. Une fois que les dames ont acheté des tas de choses, elles viennent se délasser au salon de thé.
Mais qui était la clientèle ? C'était plutôt une clientèle bourgeoise ou tout le monde y venait ?
Surtout bourgeoise, oui. Surtout ouais. Bourgeoise parce que c'était une façon de se montrer et une façon de montrer qu'on avait de l'argent. Et c'était aussi un vecteur d'ascension sociale que de, voilà, on va au Bon Marché. Et je sais pas si, quand vous lisez Le Bonheur des Dames de Zola, on voit ça, cette rivalité entre femmes, c'est-à-dire une telle achète quelque chose, mais l'autre veut exactement la même chose, ou encore mieux, pour pouvoir dire « je suis plus riche que toi ».
Alors aujourd'hui, on en rigole un peu, parce que le Bon Marché, ça reste le magasin le plus cher de Paris. C'est destiné vraiment à une clientèle très, très huppée. Et pourtant, le Bon Marché, au tout début de son histoire, c'était vraiment Bon Marché, parce qu'il y avait tellement de produits et tellement de diversité que ça pouvait permettre de casser un peu les prix pour Aristide Boussicot.
Ah, complètement, oui. Et par rapport à ses concurrents qui prenaient 40 ou 50% sur les prix de plus, lui, il plafonnait entre 13 et 15%. Donc, bien sûr, il voulait absolument... Ce qu'il voulait, c'était vendre le plus possible.
Et alors, si Denis disait tout à l'heure, juste avant la pub, que c'était un bon patron. Alors, ça veut dire quoi, un bon patron dans la France des années 1870 hein ? Il faut se resituer à cette époque. Par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y avait pas encore de congés payés, évidemment ? Donc, normalement, les gens travaillaient 7 jours sur 7 ?
Ils travaillaient 7 jours sur 7 et justement, Boussicot a prévu de donner le dimanche férié, ce qui était absolument exceptionnel pour l'époque.
Tous les dimanches ?
Tous les dimanches, on travaillait travaillait pas le dimanche, le repos dominical. Voilà, on ne travaillait pas le dimanche au bon marché. C'était aussi
pour la santé notamment.
Voilà, il y avait des crèches, il y avait un hôpital, il y avait les employés étaient logés dans les étages supérieurs. Bon, des petites chambres mal chauffées, etc. Mais elles étaient au moins logées sur place.
Ils pensaient à leur retraite aussi.
Parce qu'il y avait beaucoup de... En fait, comme les vendeuses pouvaient être mises à la porte très rapidement dans l'heure, vous n'aviez pas le droit de vous asseoir, vous n'aviez pas le droit de sourire, vous n'aviez pas le droit de parler entre vous, etc. Et bien, elles se retrouvaient à la rue et souvent, elles finissaient prostituées. Et donc, pour protéger les jeunes filles, c'était surtout Madame Boussicot qui avait pensé à ça. Il y avait des petites chambres de bonne, comme on dit, dans les étages supérieurs, qui servaient de refuge pour ces femmes-là.
Aujourd'hui, à qui appartient le Bon Marché ?
LVMH.
Voilà, un grand groupe du
un
luxe.
Un bon dans l'histoire.
Vous avez parlé de la femme d'Aristide Boussicot, qui est devenue sa veuve, qui a été une bienfaitrice, elle aussi. Vous pouvez nous expliquer comment ?
Qui a été une bienfaitrice, qui a créé l'hôpital. Elle avait, dans son testament, elle avait demandé qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'argent pour créer un hôpital, qui était l'hôpital Boussicot, qui est maintenant disparu, mais qui existait pendant plus d'un siècle. Et elle avait fait créer un hospice, une maison pour les filles mères. Il y avait une cantine dans le Bon Marché. Et en plus, c'est elle, alors là, c'est pas du tout dans le cadre de la protection sociale, mais c'est elle qui a créé, qui est à l'origine du Lutetia, de l'hôtel Lutetia. Parce qu'il fallait accueillir les clientes fortunées de France et de l'étranger. Il fallait bien les mettre quelque part, donc on les accueillait là.
Ouais, le Bon Marché, vous pouvez aussi aller visiter, pas seulement pour faire des courses, mais aussi parce que la structure a été fabriquée par Gustave Eiffel.
Oui, par l'atelier de Gustave Eiffel.
Donc ça se remarque aussi. Ça.
Absolument.
Alors quand un ancien salarié du Bon Marché a l'idée d'inventer le printemps, c'est l'histoire que l'on vous raconte maintenant, qui est Jules Jaluzot et quelle était son ambition, René Grimaud ?
Mais Jules Jaluzot, il était commis, premier vendeur, etc. Et puis il est monté en grade au Bon Marché. Et puis il a décidé de créer le printemps qui symboliserait l'élégance de la femme. C'était son credo. Et donc, quand il a ouvert son magasin, son premier geste a été d'offrir des violettes à toutes les femmes qui se présentaient. Et après chaque jour, le jour du printemps, le 21 mars, il offrait un bouquet de violettes à chaque dame qui rentrait dans son magasin.
Il avait un slogan aussi, le créateur du printemps, Jules Jaluzot. Quel était-il ?
Et probité des cousses, mon honneur et ma probité. Et on le voyait chevalier comme sur une image d'Épinal.
T'es un peu mégalo alors ?
Beaucoup.
Un peu, c'est pas tout à fait la même personnalité. Dans ce livre, qui est vraiment un beau livre, La fabuleuse histoire des grands magasins, qui est publié chez Prisma. Alors vous nous faites visiter ce premier printemps. Qu'est-ce qu'on trouvait dans les rayons ? D'abord des tissus, c'est ça ?
Beaucoup de tissus, et puis il avait lancé la fabrication de la soie, une soierie noire qui s'appelait Marie Blanche. Je n'ai pas trouvé pourquoi.
Faut apprécier l'humour.
Voilà, ça doit être sans ça. Sans doute. Et qui faisait fabriquer par les ateliers de soie des Cévennes. Vous savez, les mûriers des Cévennes. Donc, on fabriquait de la soie dans les Cévennes.
Mais pourquoi cette soie noire c'était la mode pour faire quoi ? Des déshabillés, des robes ?
Absolument pas. C'était pour des robes.
Des ouais.
robes. Oui.
Mais il y avait que les femmes qui venaient acheter des... Vous nous disiez tout à l'heure, pendant que leurs femmes faisaient le grand magasin, les messieurs se retrouvaient dans un fumoir, etc. Il n'y avait pas des produits pour hommes à acheter ?
Ah si, si. Au printemps, ça a commencé en 1880.
Ah,
il y a
vite,
eu d'abord des pardessus, ensuite des robes de chambre, et puis après des complets... Des ensembles, complets jaquettes. Voilà.
Alors, costume trois pièces.
Ce printemps n'a pas eu une vie tout à fait tranquille parce qu'il y a eu un incendie assez grave. On est en 1881. Qu'est-ce que cet incendie va détruire ?
L'immeuble entier. Ah oui. L'immeuble entier.
On est sur les grands boulevards à
on
Paris.
On est sur les grands boulevards, on est boulevard Haussmann. Et il a fallu reconstruire le printemps, mais très rapidement il a été reconstruit. Par René Binet et ça a donné, ils ont reconstruit des bâtiments et ça a donné le printemps mode, qui est l'actuel printemps mode.
Donc on va parler un peu d'architecture, cette coupole, etc. C'est quoi ? C'est l'art nouveau, c'est ça ?
C'est l'art nouveau. Et l'idée de cette architecture, on est en pleine art orientalisant, turquerie, etc. Et l'idée de cette architecture, c'est que les vitraux de la coupole étaient d'or. il fallait que ça ruisselle d'or sur les produits qui étaient montrés. Parce que c'était comme un théâtre, ces grands magasins, en fait, avec l'escalier central, etc. Et donc, la lumière qui descendait de la coupole ruisselait sur les produits, les costumes, les robes.
Sidonie, vous êtes magnifique avec cet or qui ruisselle sur vous.
N'insistez pas, je n'achèterai rien, Thomas Hugues. Alors aujourd'hui, le printemps, c'est 24 magasins en France et un à Tokyo, oui. On vous raconte dans un instant l'histoire d'un autre grand magasin, la Samaritaine, et d'un couple inventif et bosseur, les Cognac G. Restez avec nous sur RTL, ce sera après les infos.
Vous écoutez RTL.
Je suis un fleuve, une hirondelle, un ange, un cheval fou dans un grand magasin.
RTL.
Au grand magasin de l'été, rayon du soleil, j'ai acheté des vacances garanties sans pluie. Moi, j'ai rêvé d'un magasin grand.
Jusqu'à 22h.
Le printemps.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Où l'on trouverait de petits amours pour tous les jours, emportés pour deux francs.
Gilbert Bécaud, Jean Constantin, Jean Ferrat chantent Le printemps et les grands magasins qui ont vu le jour il y a 200 ans à Paris, à l'origine de chacun d'eux, des hommes et des femmes qui avaient une passion, des rêves. C'est l'historienne Renée Grimaud qui pousse avec nous les portes du bon marché du printemps et maintenant de la Samaritaine. C'est un grand magasin qui se situe où et qui a existé combien de temps ?
Au Pont Neuf, du côté de la rive droite, au coin de la rue de la Monnaie. Et il a existé à partir de 1869.
Alors j'adore
jusqu'en 2005.
Cette histoire incroyable parce que tout commence en 1869 avec un homme et un parapluie rouge. Pourquoi ?
Eh bien parce qu'il a essayé de vendre des choses et puis ça n'a pas marché d'ouvrir une boutique. Alors il revient, il s'est promené un peu en France et puis il revient à Paris, il se dit bah tiens, je vais me mettre là au niveau du Pont Neuf avec un parapluie rouge et puis je mettrai des choses dedans et je les vendrai.
Il vendait quoi, Ernest Cognac ?
Il commence à vendre des vêtements, des petits vêtements. Et puis, il allait jouer au domino chez un cafetier d'à côté. Et puis, il dit, tiens, au cafetier, j'aimerais bien louer une salle en sous-sol, à l'étage. Et puis, je vais commencer à vendre. Et c'est sa première boutique. Et qui s'appelle déjà d'ailleurs, il l'appelle la Samaritaine. Il l'appelle la Samaritaine à cause de la pompe à feu qui se trouvait sous le Pont Neuf, qui servait à amener l'eau au Louvre et aux Tuileries.
Quel rapport avec la Samaritaine ? Je comprends pas, pardon.
Eh bien parce que
cette pompe s'appelait la Samaritaine, c'est ça ?
Non, la Samaritaine, c'était la pompe à feu qui s'appelait comme ça, la Samaritaine.
D'accord, ok.
C'était le Samaritain, ça venait du Samaritain dans la Bible, etc. Et donc ça s'appelait la Samaritaine. Et c'était sous le Pont Neuf. Et comme son magasin, la Samaritaine, était juste à côté
ça y est,
du Pont Neuf,
j'ai reconnecté.
Il s'est dit, je vais l'appeler comme la pompe à feu.
De temps en temps, mes synapses se sont un peu rouillées. Donc...
ça fait plaisir, vous êtes humain.
Bah oui, ça rassure. Et alors, en préparant cette émission et en feuilletant votre fabuleuse histoire des grands magasins chez Prisma, j'ai découvert, c'est quand même dingue, hein, j'ai travaillé à TF1 pendant des années dans des locaux qui étaient situés rue Cognac G. Et je ne savais pas que ce monsieur Cognac s'était marié à une Madame G. Alors c'est quoi cette histoire ?
Eh bien, c'est toujours pareil. Madame G était vendeuse pas loin. Monsieur Cognac se promenait dans le quartier, rencontre Madame G. Ils se marient. Et puis, ils avaient tous les deux le sens du commerce, un sens exacerbé du commerce. Et ils passent leur temps à agrandir la Samaritaine, à travailler à la Samaritaine. Ils visent une clientèle populaire, pas du tout une clientèle très chic, comme c'était le cas au Bon Marché ou au Printemps.
Et ils avaient une devise, notamment ce couple Cognac G, une devise de travailleur, per laborem.
Ah oui, pour le travail, par et pour le travail. Ils passaient leur temps à ça. Le dimanche, ils refaisaient les comptes, ils regardaient les vitrines, si elles étaient bien arrangées ou pas. Et ils étaient assez durs quand même, parce que Monsieur Cognac, ses employés l'appelaient laborem, donc le travail.
C'était clair
père
au moins.
Père laborem.
Donc là, on n'est pas tout à fait dans la philosophie de Monsieur Boussicot et du Bon Marché. On va dire, sont moins des patrons sociaux.
sont moins des patrons sociaux.
Patron de la Samaritaine à l'époque.
Mais quand même, ils n'avaient pas eu d'enfants, donc ils ont créé des tas d'œuvres de bienfaisance également.
D'accord.
Crèches, un centre d'apprentissage pour les employés.
Ils prenaient grand soin des orphelins de Paris.
Ils prenaient grand soin des orphelins de Paris. Il y avait un centre aussi pour eux. Et ils ont même créé, après eux, je crois, il y a eu un prix de familles nombreuses. Comme ils n'avaient pas eu d'enfants, ils ont dû se dire, on va créer un prix pour les familles nombreuses.
Donc c'est un peu un mélange d'autorité et de paternalisme que vous nous décrivez là.
Complètement. Oui, les hommes devaient s'habiller d'une certaine façon, les employés devaient s'habiller d'une certaine façon, tout en noir. Les femmes étaient en blanc, en noir. Donc, comme d'habitude, on ne pouvait ni s'asseoir, ni parler, etc. Mais en même temps, il y avait quand même toute une des œuvres de bienfaisance en leur faveur.
Alors, on est passé du premier étage, petite pièce au-dessus du cafetier, à cet immense bâtiment Art Nouveau, tout en fer et en vitraux, hein, la Samaritaine.
Oui.
Ce style et cette charpente métallique a été très critiquée à l'époque.
Elle a été très critiquée.
Pour quelle raison ?
Et surtout, ce qui était critiqué, c'était les mosaïques qu'on a ajoutées en plus, qui étaient très colorées. Et les gens du quartier trouvaient que c'était beaucoup trop voyant. On s'affichait trop et que ça n'allait pas du tout.
Et qu'il fallait être plus discret alors que...
Il fallait être plus discret.
On faisait du commerce, c'était pour mettre en valeur les produits vendus. Je crois même que les noms des accessoires et des produits étaient inscrits dans le verre.
Absolument. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et Madame Jay avait tellement le sens du commerce que quand une cliente ne trouvait pas ce qu'elle voulait à la Samaritaine, elle offrait ce qu'elle avait. C'est-à-dire, c'est comme si vous alliez dans votre armoire et vous dites, tiens, voilà, j'ai une très jolie robe, voulez-vous l'essayer ? Et donc, elle vendait sa robe, elle a vendu un manchon que lui avait offert son mari vendait le parapluie qu'il lui avait offert, etc. Parce qu'il fallait vendre à tout prix.
Bon, vous avez encore des forces ?
Oh ben oui.
Allez, on continue notre
marathon.
J'ai
besoin d'un parapluie rouge avec tout ce qui tombe dessus sur Paris depuis quelques jours.
Eh bien, je vous propose d'aller aux Galeries Lafayette,
allez,
qui était au tout début un magasin de frivolité. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
De Dutron, en tout cas, on vous raconte la saga des grands magasins avec l'historienne Renée Grimaud. Derrière, ce qu'on découvre grâce à vous depuis tout à l'heure, pour ceux qui nous rejoignent, c'est que derrière chacun de ces établissements qui naissent au 19e siècle, il y a toujours une volonté, un rêve, celui d'un homme, Aristide Boussicot pour le Bon Marché, celui d'un couple, les Cognac Jay pour la Samaritaine. Et alors là, on va pousser la porte des Galeries Lafayette. Qui crée, qui imagine les Galeries Lafayette ?
Eh bien, ce sont deux hommes, Alphonse Kahn et puis Théophile Bader, qui viennent d'Alsace, qui ont été chassés par l'occupation allemande prussienne en 1870, et donc qui arrivent sur la rive droite et qui travaillent déjà un peu dans la confection et qui se disent, tiens, on pourrait créer les Galeries Lafayette.
Ils sont de la même famille, Alphonse Kahn et Théophile Bader.
Ils ne sont pas de la même famille, mais ils sont assez proches. Ils sont très très proches.
Et donc, ils créent un magasin de frivolité. Qu'est-ce que c'est un magasin de frivolité ?
Eh bien, des fanfreluches, des colifichets, des mots qui ont complètement disparu
mais
aujourd'hui.
Oui, mais qui sont tellement jolis à l'oreille.
Ils sont tellement jolis, oui.
Des dessous féminins aussi ?
Des dessous féminins, absolument.
Alors, ces deux fondateurs de ces Galeries Lafayette qui sont des buts, en fait, une petite mercerie. Elle fait combien de mètres carrés ?
70.
C'est
dingue. Quand on pense à ce que c'est devenu, j'adore ces histoires-là.
Deux ans après, à peine, ils vont acheter tout l'immeuble.
Absolument.
Et la particularité de leur Galerie Lafayette, ce sont leurs ateliers. Qu'est-ce qu'ils y produisent ?
Ben, ils produisent les vêtements qu'ils vendent à leurs clientes. Mais pour produire ces vêtements, ils envoient leurs employés faire de l'espionnage, ce qu'on dirait aujourd'hui de l'espionnage industriel. C'est-à-dire, elles se promènent aux courses pour regarder comment les femmes de ce monde, du monde, sont habillées. Elles se promènent dans la rue, dans les quartiers chics. Et puis, la nuit, il leur fait reproduire à des couturières ce que les femmes ont dessiné, les femmes envoyées en espionnage ont dessiné pendant la journée.
Donc, elles revenaient avec des croquis ?
Avec les croquis. Et la nuit, on travaille toute la nuit pour pouvoir produire ces robes et ces dessous féminins.
Et c'était pour faire Renée Grimaud, des robes de quelle facture ? Plutôt très bon marché ? Ou alors ça s'adressait à une clientèle quand même chic ?
Une clientèle assez populaire parce qu'au départ, c'était surtout pour les petites employées qui travaillaient dans le quartier et les vendeuses et des autres magasins en fait.
Alors, dans votre fabuleuse histoire des grands magasins que vous publiez aux éditions Prisma, vous racontez que les galeries Lafayette deviennent le premier du genre à avoir utilisé entièrement, uniquement du béton armé. Pourquoi c'est important ça ? Qu'est-ce que ça change ?
Le béton armé, c'est plus solide. C'est une structure assez légère et sur laquelle on peut habiller après. Et parce que les autres, par exemple la Samaritaine, il y avait quand même un revêtement de pierre qui était assez lourd. Et le béton armé, c'était extrêmement révolutionnaire pour l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez rue Danton, il y a un immeuble absolument extraordinaire, je fais une petite parenthèse.
Allez, ouvrons-la.
Qui a été fait par un ingénieur qui s'appelle Henbeek, et c'est au 1 rue Danton, je vous conseille d'aller le voir, vous verrez ce que c'est que le béton armé en tout début du siècle.
C'est dans quel arrondissement ?
C'est le Danton, c'est 5e ou 6e. De ce côté-là, ça doit être 5e.
Moi, quand je pense aux galeries Lafayette...
Non, 6e, excusez-moi.
Quand je pense aux galeries Lafayette, oui. j'ai la coupole en tête.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle apporte de particulier à ces grands
magasins ?
C'est
pareil, elle met en scène en fait, parce que c'est un peu comme au printemps, c'est très orientalisant, on met de la couleur, et donc en mettant de la couleur, c'est à la fois un puits de lumière,
oui.
Et en même temps ça projette de la couleur sur tous les produits présentés. Comme je le disais pour les autres grands magasins, en fait le grand magasin à cette époque c'est un théâtre. On rentre à l'opéra, on a un escalier comme à l'opéra, on a des produits présentés qu'il faut absolument mettre en valeur de toutes les façons possibles.
C'est fou parce qu'aujourd'hui on met plutôt en valeur les articles dans les magasins avec des lumières artificielles et à l'époque au 19e dans ces grands magasins, on pense lumière extérieure, c'est ça ?
Bien sûr, oui. Oui, tout à fait.
Alors, les Galeries Lafayette vont aussi développer, comme d'autres grands magasins, cette idée de faire de la publicité, de se vendre. Et alors, les galeries ont une idée incroyable. Ils ont une terrasse et les fondateurs vont organiser un grand événement.
Eh bien, oui. En 1919, un aviateur, Védrine, se pose sur la terrasse des Galeries Lafayette.
Mais elle est si grande que ça ?
On est en janvier, il fait très mauvais. Elle a 20 mètres de long, 8 mètres de large. Il fait très très mauvais, il se pose ric-rac, et après il faut descendre l'avion, comment faire ? Donc on lui demande à lui de le démanteler et de descendre les morceaux petit à petit par un monte-charge.
C'est un peu humiliant de descendre son avion en petits morceaux après un tel exploit, non ?
Voilà, pour lui c'était tellement extraordinaire que...
Oui, et puis le coup de pub était passé, et pour lui
les grands magasins.
Il y a aussi les éventails des Galeries Lafayette, c'était moins risqué ça, et plus discret comme publicité ?
Absolument.
C'était quoi ? Ils étaient estampillés, les Galeries Lafayette, les femmes s'en servaient pour se rafraîchir pendant les courses ?
Oui, il faisait tellement chaud, tant qu'il n'y avait pas la climatisation, qu'elles avaient besoin d'un éventail pour se rafraîchir, absolument.
Aujourd'hui, c'est un grand groupe qui a racheté les Galeries Lafayette ou c'est une affaire familiale toujours ?
C'est toujours une affaire familiale. Ginette Moulin, qui entre 80 et 90 ans, à mon avis plus proche des 90 ans, est la petite fille d'un des fondateurs, Théophile Bader. Et donc, elle a toute sa famille qui gère, enfants, petits-enfants, neveux, petits-neveux, qui gère encore les Galeries Lafayette.
Merci beaucoup, merci René Grimaud, c'était passionnant, cette fabuleuse histoire des grands magasins. Votre livre, c'est vraiment un beau livre qu'on conseille à nos auditeurs à la curiosité sur RTL. Il est publié aux éditions Prisma, merci.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.